Oui, bah bonjour et puis merci à toutes et à tous d'être présents. Je débarque, comme vous avez pu le voir, donc je vais prendre aussi ma respiration pour vous présenter ce que j'ai à vous présenter. Donc comme c'est indiqué tout là-haut, moi je suis enseignant-chercheur à l'université de Paris-Cité, au CRPMS, donc Centre de recherche en psychanalyse, médecine et société. Donc j'ai une épistémologie qui est psychanalytique, psychodynamicienne, mais je suis aussi biostatisticien en santé publique, ce qui fait pas très psychanalyste, je le sais. Mais ça rend des choses assez rigolotes au niveau de la recherche et ça permet d'avoir des approches que je considère pragmatiques pour penser ce dont je vais vous parler. Et puis comme c'est indiqué tout à gauche, là, je suis membre de l'Institut universitaire de France. Voilà, c'est une distinction scientifique que certains anciens chercheurs ont par rapport aux recherches qu'ils font. Et tristement, j'aime souligner avec beaucoup de regret, je tiens à vous le dire, que, il n'y a pas longtemps, on m'a dit que je faisais partie des deux meilleurs enseignants-chercheurs de France sur cette thématique, parce qu'on n'est que deux à travailler dessus. Voilà. Ce qui est quand même assez problématique, parce que moins on a de forces vives, moins on pourra se mettre au travail pour réfléchir et pour trouver des solutions. Alors, effectivement, on a des gens de terrain qui sont très engagés, qui permettent de pouvoir documenter, mais au prisme de leur observation clinique, de leur observation de personnes de terrain, et on essaye de combiner les approches pour avoir les dimensions les plus objectives possibles et pour saisir les enjeux le plus avec une dimension la plus rationnelle possible. Voilà. Alors, on commence à avoir des nouveaux copains quand même, puisque Bénédicte Lavaux-Legendre est quand même la principale chercheuse sur cette thématique. Elle est chercheuse au CNRS et à l'université de Bordeaux. C'est quelqu'un qui est remarquable, vraiment. Je vous invite vraiment à lire ses travaux, à l'écouter. Voilà. Et puis moi. Voilà. Voilà. Vous avez maintenant quand même une personne à l'INSERM, qui est au laboratoire, qui est dirigé par Maria Melchior, je me rappelle plus de son nom. Fabienne Elkouachi, qui commence à travailler sur la thématique avec l'association l'AVM, l'association des violences sur mineurs. L'AVM, oui, je crois que c'est ça, qui est dirigé par Mélanie Dupont. Voilà, qui commence à travailler un peu sur cette thématique, mais à part ça, vraiment, en tant qu'universitaire, on n'est pas beaucoup. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette thématique en 2014, parce qu'en 2014, j'étais pas enseignant-chercheur, j'étais psychologue au sein d'un service d'aide éducative en milieu ouvert sur le secteur de Corbeil-Essonnes, Évry et Grigny. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous venez d'où? Bah, peut-être. J'étais formateur à l'IRFAS aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous parle? Non? Et donc, bon, peu importe. Et c'est dans le cadre de ces fonctions en tant que psychologue que j'ai été confronté pour la première fois en 2014. Je me rappelle parce que c'était une année symbolique pour moi. Je soutenais ma thèse de doctorat. Sur la question de la sublimation de l'agressivité chez les sportifs de haut niveau. Autant vous dire, ça n'a rien à voir. Sauf que donc, je rencontre cet ado de 14 ans, où je comprends qu'elle fait 7 à 8 passes par jour. Et là, je fais, mais qu'est-ce qu'on fait? Et je vais voir son éduc, elle me regarde, enfin, voilà, je vais voir la chef de service, on se regarde. J'appelle la juge des enfants et... pas plus de réflexion. Et en tant que bon universitaire que j'étais à l'époque, bah, je vais sur Cairn et puis je me dis, bah, tiens, on va voir ce que dit la littérature là-dessus, comment on peut trouver des solutions. Et à l'époque, il y avait deux articles qui avaient été publiés sur Cairn, un dans la revue Adolescence, qui datait de 2004, et l'autre dans la revue L'Information psychiatrique, qui datait de 2014, donc de la même année, et rien d'autre. Donc, une catastrophe. Et ça a été vraiment pour moi une nécessité professionnelle d'essayer de combler mon incompétence professionnelle en tant que chercheur par rapport à cette thématique, par rapport à cet ado que je considère avoir laissé dans une situation complexe à cette époque-là.
Voilà, je n'ai pas pu lui apporter plus de solutions que j'aurais souhaité. L'institution ne s'est pas positionnée dans une façon plus favorable qu'une AEMO classique, ce qui malheureusement n'a pas échappé à la réalité de la situation dans laquelle elle était. Ça a été la reproduction de cette situation jusqu'à l'entrée dans la vie adulte. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai mené 3 études depuis sur cette thématique. La première, c'est une étude sur sur la représentation des professionnels que je ne vous présenterai pas aujourd'hui. Ça a été la première étude que j'ai menée en 2020 et 2021. J'ai interviewé 46 professionnels de la protection de l'enfance, 20 de l'ASE et 26 de la PJJ, de différents services, que ce soit des UMO, des établissements de placement, des UAJ, je crois, c'est bien ça? Voilà, et pour savoir quelles étaient les représentations, comment ils considéraient la question de la prostitution des mineurs. Alors très rapidement, depuis 2018-2019, quand j'ai fait ma revue de la littérature, j'ai conscientisé l'importance des enjeux lexicaux relatifs à la prostitution des mineurs et de la nécessité de rejeter de façon catégorique ce terme. On ne peut pas parler de prostitution des mineurs pour plusieurs raisons. La principale, c'est que il y a un consensus scientifique international qui date de 2013 sur le fait qu'un mineur qui se prostitue est amené à cette prostitution de par la trajectoire psychotraumatique qu'il a rencontrée et de par la situation de vulnérabilité sociale et psychique dans laquelle il est. Qui plus est, cette question d'emprise n'est que le résultat d'une emprise par une tierce personne, mais aussi d'une emprise de son propre parcours sur cette personne. On ne se prostitue pas parce qu'on le souhaite. Ça, c'est une volonté, j'ai envie de dire, érotique, cinématographique, que l'on peut trouver aujourd'hui, mais qui n'existe pas dans le réel. Voilà. On parle des mineurs. Mais vous prenez le film Jeune et Jolie, par exemple, c'est chouette de se prostituer. Bah, si vous regardez le film, si. Il y a une dimension extrêmement glamour de la situation qui ne raconte en rien la réalité que je vais vous présenter. Et en 2020, grâce à mes collègue canadien, j'ai développé une étude qui a été aussi réalisée dans le Nord par une collègue démographe 2 ans après, qui est une étude populationnelle, voilà, dans laquelle j'ai créé un indice d'évaluation de l'exploitation sexuelle et pour savoir quelles étaient la proportion, les trajectoires des mineurs exploités sexuellement. Et puis ensuite, je vais tout vous déconstruire, parce que moi, c'est ce que ça a généré chez moi, de la déconstruction de mes représentations. Là, je vais rentrer dans des représentations de genre socio-anthropologiques, qui sont celles d'un homme cisgenre, issu d'une longue tradition, qui est cette fameuse domination patriarcale, puisque dans nos représentations, l'exploitation, ou plutôt la prostitution, est un acte de passivité qui viendrait du genre féminin, et donc qui ne concerne exclusivement que des femmes. On est d'accord avec ça? Ben moi, c'est ce que je pensais quand j'ai commencé à bosser dessus, et notamment, c'est les résultats que j'avais quand j'ai commencé à bosser dessus en 2014. La littérature ne parlait que de la prostitution des femmes, et ne parlait en aucun cas de la prostitution des hommes. Les situations de terrain, quand j'ai fait mon enquête auprès des 46 professionnels de la protection de l'enfance sur la prostitution, seulement 5% d'entre eux m'ont parlé éventuellement d'une situation d'exploitation sexuelle masculine. Alors, quelques points quand même à connaître. À l'échelle internationale, on a ces données qui sont quand même importantes. C'est que l'exploitation sexuelle des mineurs représente une problématique d'ampleur mondiale qui touche 1 à 5% des enfants. Voilà, c'est ce que nous dit la littérature internationale. Et en France, on n'a pas de données là-dessus.
à part celle de la CPE, qui à l'origine avait été créée, mais plus pour combler un vide que pour donner une estimation fiable, parce qu'on insistait auprès de la présidente de la CPE de c'est quoi le chiffre, et elle le dit elle-même, et moi on m'a demandé un chiffre, j'ai donné un chiffre, j'ai dit entre 5 et 10 000, sans avoir de source fiable. Voilà, et c'est le chiffre qui a circulé. Alors aujourd'hui, avec la CPE, on a d'autres chiffres, notamment à partir des études que j'ai pu faire, que je vais vous présenter maintenant, et à partir de eux, leur expertise qu'ils ont, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus à 20 000. Voilà. Et ben moi, ce que je vais vous présenter fait que je pense qu'on est plutôt à 50 000. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Et une des problématiques en France, ce à quoi je cherche à combler en tant que chercheur, c'est qu'on n'a pas d'études épidémiologiques sur les enfants de l'ASE. On ne connaît pas bien les trajectoires de vie, les maltraitances dont ont été victimes les enfants de l'ASE, dans quelle proportion, de quoi il s'agit, quels sont les symptômes qu'ils ont, comment on fait pour les prendre en charge. Ce sont des données qui sont un peu absentes de la littérature, et quand on parle d'exploitation sexuelle, forcément, si vous écoutez les grands médias, ça n'existe que dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est faux. Je vais vous le montrer aussi. En tout cas, à partir d'une étude, je vais vous montrer à quel point on peut relativiser ces données. En fait, je sais pas, vous avez dû entendre parler de cet avocat marseillais qui dit que l'aide sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, c'est un désastre de risque d'exploitation sexuelle, que ça ne concerne que ces situations. Ah, bah non. Moi, je vais vous montrer que c'est aussi un effet extrêmement protecteur du risque d'exploitation sexuelle. C'est assez contre-intuitif, on est d'accord? Et donc, dans un premier temps, je vais procéder de la façon suivante, c'est-à-dire des questions de prévalence, quels sont les facteurs de risque, la santé mentale, et un modèle de médiation statistique qui permette de montrer aussi comment ça peut amplifier le risque de santé mentale. Et pour ce faire, donc j'ai réalisé une étude qui intègre 1315 mineurs et pas 1305, il y a une erreur, je suis désolé, confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et donc sur ces 1305 mineurs de 0 à 18 ans, on avait 62 mineurs qui étaient en situation d'exploitation sexuelle, ça fait 4,7% de la cohorte. Voilà. 4,7% des 0-18. Sur cette population, on avait donc 4,7% de la cohorte, comme je vous le disais. La moyenne d'âge, donc c'est une moyenne, donc on a des données qui peuvent être aberrantes, vous savez, l'âge médian était de 16 ans, c'est-à-dire qu'on avait autant de jeunes en situation d'exploitation sexuelle qui étaient au-dessus de 16 qu'autant de jeunes en dessous de 16. Vous voyez? Mais c'était compris entre 6 et 18 ans. L'enfant le plus jeune recensé est confirmé parce qu'on a validé les données par le conseil départemental. C'est une étude que j'ai réalisée avec le conseil départemental de l'Essonne. L'enfant le plus jeune avait 6 ans et était pris dans un réseau d'exploitation qui était organisé par la grand-mère à l'époque. Voilà. Et données assez contre-intuitives, en tout cas pour moi à l'époque, c'est que 27% des jeunes en situation d'exploitation sexuelle étaient des garçons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vraiment, que ça puisse être interactif. C'est sur les données, ça c'est des données administratives. Donc c'était les dossiers de l'ASE. Voilà, on a travaillé sur les dossiers de l'ASE. Et donc, c'est une des questions qu'on peut se dire, est-ce que ces chiffres ne seraient pas sous-représentés parce qu'il y a tous ceux qu'on n'a pas identifiés. Voilà, tout à fait. Sauf qu'à l'époque, ce que je me suis aussi amusé à faire, c'est que on sait qu'il y a 4,7% de ma population qui est en situation d'exploitation sexuelle. Si je mets des différents poids de pondération pour corriger mes variables et que je fais une mesure représentative à l'échelle nationale des jeunes, ça me donnait approximativement 15 000 jeunes en situation d'exploitation sexuelle. Voilà, c'est beaucoup. À plus ou moins 12 500, 17 500, ça c'est l'intervalle de confiance. Au sein de l'aide sociale à l'enfance, il ne faut pas oublier que l'aide sociale à la protection de l'enfance, excusez-moi, c'est 2% de la population infantile.
Donc on a 15 000 mineurs en situation d'exploitation sexuelle sur 2% de la population infantile. Voilà. C'est important.
Oui.
Oui, question concernant la sémantique exploitation sexuelle, mais aussi, est-ce que dans votre recherche, vous avez inclus dedans aussi les enfants qui ont subi l'inceste au sein de la famille, ou c'est que, enfin, justement, ils ne sont pas forcément suivis par l'ASE, mais qu'ils sont dans le cadre de suivi MJE?
Alors, MJE, AED, tout était inclus.
D'accord.
Voilà. C'était vraiment toutes les mesures dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Donc, les MJE, ça rentre dedans. Les AEMO, ça rentre dedans. Les AED rentrent dedans. Et puis, bien évidemment, les placements, que ce soit les OPP ou les AP, rentraient dans ce cadre où les différences placements d'urgence, 72 heures, tout ça, ça rentrait dans le cadre. Voilà. Après, effectivement, là, je peux vous dire que c'est mon désir de refaire cette étude prochainement, mais avec un panel beaucoup plus important que 1300 jeunes, parce que je suis en sous-puissance statistique pour évaluer le risque d'exploitation qui serait lié à une situation incestuelle intrafamiliale. Voilà. Ça, je peux pas. J'ai pas de puissance statistique pour le faire. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça, c'est quand même une donnée qui est assez, importante pour moi, celle-ci. Voilà. Entrée plus tardive dans le dispositif. 14 ans versus 8 ans chez les autres suggère des parcours de vie marqués par l'errance et la discontinuité des prises en charge. En gros, plus on place un enfant tardivement, plus il a un risque d'exploitation sexuelle. Un placement précoce a un effet protecteur sur le risque d'exploitation sexuelle. Parce que ça sous-entend la répétition de la maltraitance au sein du cercle intrafamilial. Les maltraitances infantiles, que ce soit les négligences éducatives, les négligences émotionnelles, les violences physiques, sexuelles, ou les négligences physiques, ou l'exposition aux violences intrafamiliales, ne commencent pas qu'à l'adolescence. Elles ont certainement une antériorité. Éventuellement, il peut y avoir des parcours de rupture familiale avec des divorces et où la maltraitance arrive avec le nouveau conjoint du père ou de la mère. Mais ça reste très marginal comme situation. Ça, vous le savez tous très bien, il y a un très fort taux de déscolarisation chez les mineurs exploités sexuellement. Après, donc, je me suis intéressé aux maltraitances qui ont conduit à la prise en charge par les services de la protection de l'enfance. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez pas le voir. Tu peux déplacer ça ?
Oui, bien sûr.
Voilà, peut-être pas devant le drapeau de la France.
Si, ça va aller.
Voilà. Donc, on a, ça a disparu. Les jeunes exploités et les jeunes qui sont non exploités. Et donc, les jeunes exploités sexuellement ont 10 fois plus d'antécédents de violences sexuelles que les autres jeunes. Vous avez perdu votre housse de micro. Ils ont aussi 2 fois plus de violences physiques, de violences psychologiques et de violences intrafamiliales et de négligence. Alors, la négligence, ça rentre pas, c'est pas un facteur qui est vraiment, c'est un peu prédictif, mais c'est pas un des éléments les plus prédictifs. Quand on regarde nos données, la variable la plus prédictive du risque d'exploitation sexuelle, c'est pas le genre, c'est les antécédents de violence sexuelle. Voilà. Et c'est confirmé par la seconde étude que je vais vous montrer juste après. La variable la plus prédictive du risque d'exploitation sexuelle, donc qu'est-ce qui fait qu'un jeune risque d'être dans une situation d'exploitation sexuelle, ce n'est pas forcément le fait d'être une jeune fille, c'est plus le fait d'avoir été victime de violences sexuelles. Ok ? Et pareil, mais là les données sont pas affichées, la polyvictimisation, on s'en rend compte, ils sont plus victimes de différentes formes de maltraitance, est beaucoup plus significative. Et en gros, moi, ce que je propose à partir de ça, c'est que quand vous avez une prise en charge d'un mineur
avec trois formes de maltraitance qui ont été déclarées dans l'évaluation, dont une d'entre elles sont les violences sexuelles, eh ben, ça doit être une situation d'alerte du risque d'exploitation. Surtout si le placement a lieu à l'adolescence, c'est-à-dire à partir des 12 ans. Vous avez sincèrement moins d'inquiétude à avoir avec des placements antérieurs où les situations de violence sexuelle sur le mineur ne sont pas avérées. OK ? Et là, ce dont on se rend compte, c'est que ce sont des mineurs qui, en plus, et vous voyez, il me manque des données, elles apparaissent pas, elles sont sur le PowerPoint, j'en suis sûr. Voilà, hop, vous voyez, ça a apparu.
Ouais.
Ce sont des mineurs qui ont des symptômes psychologiques beaucoup plus prononcés et dans des proportions beaucoup plus importantes. 61% de dépression versus 41% chez les non-exploités, 85% d'anxiété versus 72% chez les non-exploités, 44% d'idées suicidaires versus 11% chez les non-exploités. C'est 4 fois plus d'idées suicidaires. C'est énorme. Et on a des comportements autodestructeurs. Alors vous me direz, ça va avec les idées suicidaires qui sont beaucoup plus importants. Mais là où c'est vraiment la folie, c'est la consommation de substances psychoactives, surtout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'alcool. L'alcool n'est pas une consommation logique chez des adolescents. Le cannabis, on va le retrouver de façon peut-être un peu plus systémique, même si l'alcool peut avoir un aspect plus culturel, elle a un effet notamment extrêmement important pour favoriser des états dissociatifs. Vous savez, on vous a beaucoup parlé de ça, qu'en cas de trauma, il peut avoir lieu ce qu'on appelle une dissociation post-traumatique, c'est-à-dire qu'on va rompre avec notre schéma somatique, notre schéma sensoriel, pour essayer d'être, de se couper de nos émotions et des ressentis traumatiques lorsque la répétition traumatique va se répéter. Sauf que, et puis aussi quand les souvenirs, ce qu'on appelle la mémoire traumatique, c'est-à-dire la réviviscence des souvenirs, vont opérer, ça c'est très envahissant, c'est très traumatogène, et c'est ce qui fait qu'on va avoir des patients qui vont s'effondrer psychiquement parce qu'ils vont repenser à cet événement traumatique. Sauf que quand cette dissociation psychique n'est plus opérationnalisable, le fait d'avoir des consommations de substances permet de chimiquement la générer pour pouvoir subir la répétition de l'exploitation sexuelle. Et donc, on va avoir des consommations de substances beaucoup plus importantes chez ces adolescentes et chez ces adolescents. Et pour finir avec cette... Vous avez une question ? Oui, allez-y.
Par rapport à l'usage des substances, j'aimerais savoir qui de l'œuf et de la poule. Est-ce que je sais qu'il y a un lien, d'après ce que j'ai lu, entre les narcotrafiquants pour commencer à l'exploitation sexuelle des mineurs, et donc du coup, bien évidemment, pour être plus malléable, on va utiliser les substances, et du coup, ils rentrent dans une dépendance. C'est pour ça que je demande, est-ce que c'est du fait de ce que vous venez de dire, dissociation, mémoire traumatique, et ainsi de suite, liée à l'enfance, ou à partir de l'entrée dans le réseau et de l'exploitation sexuelle?
Alors, pour moi, ce qui est premier, c'est le trauma. En fait, j'aurais envie de dire, ce qui est, moi, c'est, aujourd'hui, c'est ce qui m'invite d'ailleurs à vouloir favoriser des formations nationales, prénatales, chez les parents, non pas d'accompagnement au risque d'exploitation sexuelle, ça c'est une aberration de penser ça, mais d'accompagnement de la parentalité à l'adversité infantile. C'est-à-dire que, statistiquement parlant, on va avoir un enfant sur quatre, un enfant sur trois, qui va être victime de violences, de harcèlement, de violences physiques, de violences sexuelles. Et face à ça, les parents peuvent avoir une absence de réponse. Une absence de réponse parce que ça les renvoie à leur propre traumatisme, à leur propre adversité, où tout simplement une absence de réponse parce qu'ils ne savent pas comment faire par rapport à ces situations. Maman, j'ai été violée à l'école. Non, non, ma fille, ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça à la maison. Je pense que tu as exagéré. Il était peut-être juste amoureux, mais tu n'as pas compris comment il voulait. On n'en parle plus. J'exagère le trait, mais ce sont des réalités de la non-accompagnement écosystémique de l'enfant en situation complexe. Et vous voyez, j'aime bien faire des analogies avec le somatique. Si vous vous cassez le bras, théoriquement, vous emmenez vos enfants aux urgences. Vous emmenez votre enfant chez le médecin, vous faites des radios de contrôle. S'il y a besoin, on va faire de la kinésithérapie. Et à un moment donné, on va pouvoir reprendre une vie normale. Si votre enfant subit un traumatisme, quel qu'il soit, eh ben, on va voir un médecin. Peut-être un peu plus spécialisé. J'ai envie de dire, si c'est une simple entorse et que vous avez fait du foot pendant votre enfance, vous savez que vous allez mettre de la glace parce que vous vous rappelez de vos processus de réparation somatique. Vous allez mettre de la glace, des anti-inflammatoires et peut-être que vous allez faire un strap pour pouvoir réduire la motricité des tendons pour que l'entorse se résorbe d'elle-même. Et en fait, vos compétences auront suffi. Par contre, par rapport à des traumas, rupture du ligament croisé, rupture méniscale ou quoi que ce soit, ou tout simplement fracture d'un métacarpe ou d'un métatarse, vous allez être obligé d'avoir un accompagnement médical. Donc, votre capacité parentale va être limitée et vous allez aller vers des professionnels qui vont être en mesure de vous accompagner. Ben combien d'enfants on a qui n'ont pas cet accompagnement psychique de la part des parents ? Par rapport à du trauma somatique, où là la maltraitance, où là le traumatisme est évident. Qu'en est-il quand celui-ci est réel ? Dans le sens psychique du terme. Vu que ce n'est pas matériel, on ne le conceptualise pas et on ne l'accompagne pas. Donc pour moi, ça c'est premier. Par contre, là où j'aurais un doute, où je parlerais davantage de bidirectionnalité, c'est quand la substance est aussi un moyen autothérapeutique pour la personne d'échapper aux effets de la répétition traumatique. Ça, on le voit chez des personnes qui ne sont pas exploitées sexuellement, qui ne sont pas en situation d'exploitation sexuelle, qui vont consommer des substances pour tout simplement oublier le trauma. J'ai fait une publication, on a interviewé 12 hommes qui avaient été victimes de violences sexuelles pendant l'enfance, qui n'étaient pas en situation d'exploitation sexuelle, parce qu'on ne travaillait pas sur cette thématique à ce moment-là, et dont la consommation de substances était un mode autothérapeutique. Je bois pour oublier. Voilà. Donc, on a une dimension bidirectionnelle.
Je vais juste rester sur ce que vous venez de dire au début. Cette incompréhension totale à partir du moment où il y a un accident corporel, somatique, les parents savent ce qu'il faut faire et ainsi de suite. Et j'aimerais profiter de ça pour que vous puissiez me répondre sur pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un traumatisme, intuitivement j'ai une idée, mais est-ce qu'il y a eu des recherches sur ça en disant, dès lors qu'il y a une exploitation sexuelle, un abus sexuel, un inceste au sein de la famille, et encore plus, on sait très bien que les chiffres sont énormes, c'est intrafamilial, c'est pourquoi il y a cette tétanisation de la famille. Je présume que dans le cas somatique, je sais ce que j'ai à faire, puisque je ne suis pas en danger, je vais appeler le 15, je vais aller aux urgences. Mais quand mon socle social, mental, familial, et sociétal et vient être percuté par l'annonce de cet événement, je pense que la majorité des parents doivent être tétanisés. Quelle réponse ? Est-ce qu'il y a des études sur ça ou je reste avec cette question sans réponse ?
Non, je vais commencer à vous apporter des éléments de réponse qui sont historico-juridiques, parce que c'est important. Mais malheureusement, ça c'est aussi des éléments de réponse, c'est que la subjectivité traumatique n'interroge pas le droit. La reconnaissance de celle-ci, oui. Si vous êtes une jeune fille qui avait pratiqué des fellations à l'âge de 11 ans avec quelqu'un de 40 ans et que, pour différentes raisons, vous n'arrivez pas à verbaliser votre non-consentement, si ça s'est passé en 2015, eh ben en fait, c'est légal. C'est pas que c'est légal ou pas légal, c'est que juridiquement, la considération de ce geste n'était pas reconnue comme ça l'est aujourd'hui depuis la loi de 2021. Et donc, je donne un autre champ, puisque je travaille sur la question du consentement à la sexualité chez les adolescents avec un groupe de chercheurs aussi à côté. On a une historienne qui est venue nous faire une présentation sur la question du consentement de la sexualité chez les femmes mariées au XVIIIe siècle. Hyper intéressant. En fait, c'était déjà des questions qui étaient posées. Et à la fin de sa conférence, je lui pose la question. Bon, vous parlez beaucoup de la question du consentement des femmes, mais qu'en est-il de celle des hommes et notamment des jeunes garçons? Parce que vous savez, l'instruction par l'attirance sexuelle des jeunes adolescents, c'est quelque chose qui date depuis des milliers d'années. Et elle me dit, mais vous savez, il y a des textes qui ont été faits, notamment en Italie, où il y avait des proportions plus ou moins similaires de violences sexuelles sur des jeunes garçons, mais qui n'étaient pas rapportées comme telles, parce qu'on ne parle pas de violences sexuelles. Lorsqu'il y a pénétration anale, on parle de barbarie, on parle d'animosité. On ne parle pas de violences sexuelles. Il faut attendre les années 80, 1980, pour reconnaître en France qu'une pénétration anale soit un acte sexuel. D'un cadre juridique. Donc c'est pas un viol. Ce n'est pas un viol. Un viol par pénétration anale n'est pas reconnu comme viol par pénétration vaginale. Juridiquement parlant, ce n'est pas la même chose, ce n'était pas la même chose. Donc on ne considère pas ça de la même façon, donc on ne pouvait ne pas condamner ça. Et heureusement que les lois évoluent par rapport à ça. Sauf que un jeune garçon victime de ce genre d'acte au 16e, au 18e ou au 21e siècle, que la loi le reconnaisse ou non, les effets traumatiques sont les mêmes. Mais la question des violences sexuelles chez les moins de 18 ans, elle a existé bien avant la loi de février 2021. Donc qu'en est-il de nous ou de nos parents? Les données sont claires par rapport à ça. Le Lancet a publié une étude en mars dernier sur la proportion d'enfants victimes de violences sexuelles à travers le monde ces 30 dernières années. L'article fait 10 pages. Les annexes en font 456. J'ai lu que les annexes françaises. J'ai pas lu les autres annexes parce que ça m'intéresse pas des autres pays, mais il y a 456 pages d'annexes. On a des proportions similaires, plus ou moins similaires, de violences sexuelles sur les enfants à travers le monde. En France, c'est 17%. Et c'est une moyenne assez constante ces 30 dernières années. C'est-à-dire qu'on a plus d'un enfant sur 10 qui est victime de violences sexuelles pendant l'enfance. Ah, je suis désolé de vous dire, si on est 40, on a possiblement 4 personnes ici qui ont été victimes de violences sexuelles. Et dont la représentation, par contre, va excessivement changer entre si ça a eu lieu il y a 30 ans ou si ça a lieu aujourd'hui. Et c'est ça qui change. C'est pas l'impact de la violence. C'est qu'est-ce qu'on fait quand celle-ci a eu lieu? Bah, soit tu fermes ta gueule, pour le dire vulgairement, c'est ce qui se passait il y a 30 ans. Et donc quand les enfants de ces personnes sont victimes à leur tour, bah qu'est-ce que ça fait? Ça vient lever 30 ans de mécanismes de défense pour enfuir ce traumatisme. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, les parents savent pas quoi faire. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été accompagnés au moment où ça a été présent pour eux. Oui.
Juste avant ma collègue, moi j'ai une question. Si j'ai bien compris, je vais résumer assez vite, c'est les traumatismes qui peuvent conduire plus à risque à l'exploitation sexuelle des mineurs. Les traumatismes, très souvent, ils sont provoqués par l'environnement familial. C'est le lieu principal des traumatismes. Et du coup, pour certaines familles, ce qu'on devrait faire, mais qu'on n'est pas prêt à faire en France, c'est sortir l'enfant de sa famille et considérer l'enfant comme ayant des droits privilégiés sur sa famille. Enfin, voilà. Sauf qu'en France, ce n'est pas tout à fait le cas.
Je n'ai pas dit qu'on avait les solutions.
Ouais, merci.
Mais merci.
Je
ne fais que le diagnostic de « ça ne va pas ». Je vous donne un exemple sur lequel moi je suis assez engagé en tant que chercheur d'un système dysfonctionnel, d'une situation conflictuelle, sociétale, qui quitte le domicile en cas de violence conjugale. Est-ce que c'est normal ? C'est complètement aberrant.
En situation de harcèlement, très souvent, par exemple au travail, c'est la personne qui est harcelée qui va se casser, enfin qui va finir par partir, parce que de toute façon l'institution va protéger celui qui harcèle.
Mais bien sûr, mais à l'école, effectivement, mais on a encore malheureusement un héritage patriarcal qui nécessite à être déconstruit. On a une logique basée sur les acquis du pouvoir, et en tant que homme cisgenre. Eh ben, excusez-nous, mais c'est mieux d'être un homme aujourd'hui. C'est mieux de... Bah oui. Alors, moi, je suis un peu arabe, donc ça, j'ai un prénom qui, pendant longtemps, n'a pas joué en ma faveur. Mais heureusement, j'avais le faciès qui permettait de compenser. Mais c'est une réalité. Franchement, toutes les études sociologiques en parlent. Il faut arrêter de faire croire qu'aujourd'hui, dans notre société, le fait que les hommes sont égaux aux femmes, c'est pas vrai. Il s'est passé un truc incroyable. Je le dis parce que j'en ai parlé. J'ai un copain qui est prof à HEC. C'est un mec avec qui j'étais au lycée. Aujourd'hui, il est prof en économie à HEC et c'est assez rigolo. Et il m'a dit, tu sais, Aziz, pendant la Covid, on n'a pas pu faire les partiels sur table. Et on a eu la même chose à l'agrégation. L'agrégation, donc le diplôme, un des diplômes les plus ouf de France, des plus sélects, on a exactement la même chose. Et donc, ils ont dit, on ne va pas pouvoir faire passer les oraux. Et donc, on va sélectionner uniquement sur les devoirs écrits. Et en fait, on s'est retrouvé avec 75% de femmes, alors qu'ils disaient, mais nous, on fait la parité, on est à 50-50. Non, en fait, la parité allait contre les femmes. Et sauf qu'on se rendait compte qu'avant, on était à 80% d'hommes. Et donc, en fait, la parité est encore, dans ces cas-là, une logique de domination de genre. Et au grand oral de l'agrégation, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a des études qui ont été faites pour montrer que la transmission du pouvoir se fait d'homme à homme, et donc on ne transmet pas la potentialité d'accès à l'agrégation aux femmes, puisque c'est quelque chose de très honorifique, qui donne du pouvoir. Dès qu'on va arriver à des fonctions de pouvoir, quand il y a des évaluateurs hommes et femmes, puisque les femmes qui ont du pouvoir sont aussi dans des logiques patriarcales, j'en ai chié, donc vous aussi vous allez en chier deux fois plus, et donc on est dans une continuité de genre par rapport aux enjeux, de violence, de domination. La question de l'exploitation sexuelle, c'est exactement la même chose, dans des proportions aussi importantes. Oui, il y avait une autre question d'abord.
Oui, en effet. Alors, je rebondais sur la première remarque qui était la première réponse à la question précédente, qui était aussi dans la prolongation de ce que vous disiez, c'est aussi comment on peut accompagner un mineur auteur de violence sexuelle qui a lui-même été victime, c'est-à-dire s'il n'a pas été reconnu comme victime. Si lui-même n'a pas été reconnu comme victime et que sa parole n'a pas été écoutée, n'a pas été prise en compte, ou parce qu'il est auteur et qu'il a été victime de violences sexuelles dans un CEF, c'est bien fait pour lui. Ce traitement-là aussi, il questionne aussi comment on accompagne.
Alors, je suis entièrement d'accord, c'est très intéressant ce que vous dites, mais ce qui est fondamental, c'est de dissocier les choses. Le prendre en charge pour... pour les espaces victimaires sur lesquels il a été et le prendre en charge sur un autre versant sur lorsqu'il a été auteur. Ce sont des choses qui sont intervenues dans des contextes différents. Pourquoi on les confond ?
C'est pas pour les confondre, c'est le sens de, en fait, on va travailler l'empathie. En fait, l'empathie vers la victime. Il y a un travail en fait aussi d'empathie sur la victime. Mais quand lui-même, sa part de victime, en fait, n'a pas été reconnue dans une prise en charge.
Vous savez, la réalité, je travaille avec quelqu'un que je vous inviterais vraiment à rencontrer, c'est Barbara Smagnotto, qui est professeure de psychologie à l'université Paris-Nord, et elle est membre du CRIAVS. Je travaille beaucoup avec elle. On a une étude sur le stress traumatique secondaire des forces de police exposées à des violences sexuelles sur mineurs, et on travaille sur les auteurs de pédocriminalité, de cyberpédocriminalité. Et en fait, quand on regarde les études, ils ont quasiment tous été victimes de violences sexuelles. Sauf qu'on les condamne sur les actes. Effectivement, pourquoi on ne travaille pas sur les traumas qu'ils ont subis ? Et vous avez raison, c'est une problématique sociétale. Aujourd'hui, la peine n'est pas thérapeutique.
Et en fait, la deuxième remarque, elle était sur la question de la violence intrafamiliale, notamment la reconnaissance de l'inceste. Vous parliez sociologiquement aussi, on a du mal à voir. Donc j'ai travaillé sur des projets sur l'inceste. Ne serait-ce que dire le mot inceste et proposer un projet avec le mot inceste, il y a des réactions épidermiques de rejet.
Vous savez, je vais vous parler après de la deuxième étude, et puis il va falloir que j'avance un peu parce qu'on a fait un petit peu de digression. Donc la deuxième étude m'a été beaucoup, et là je fais partie de l'équipe qui va donc rédiger et le plaidoyer UNICEF 2025-2026. Et dedans, j'ai dit, allez, si vous voulez que je bosse avec vous, ça a une seule et unique condition, on met la CE. La CE, c'est l'Adversity Child Experience, pour mesurer en population générale, sur une cohorte de 30 000 jeunes, la proportion de d'exploitation sexuelle et de maltraitance infantile. Moi, je bosse avec vous seulement s'il y a ça. On a tous les collectifs de parents qui étaient ulcérés à l'idée qu'on puisse poser ça comme question à des enfants entre 11 et 17 ans. C'est inadmissible de leur demander. Bah oui, grosso modo, on demande si vous êtes auteur de violence, vous. La deuxième étude que je vais vous montrer, ce sont les professionnels des missions locales qui, certaines missions locales, notamment dans le Grand Est, ont refusé la diffusion du questionnaire parce qu'on leur demandait s'ils avaient été victimes de violences sexuelles pendant l'enfance. Et donc les professionnels refusaient d'en parler, et les jeunes qui ont répondu nous envoyaient des mails pour nous remercier d'avoir un espace d'expression de ces choses qui ne peuvent pas être dites autrement. Et donc nous, ça nous est doucement rire de voir que l'étude n'a pas eu... Alors j'ai récolté 3000 données, j'ai 3000 jeunes qui ont répondu à ce questionnaire, ce qui est énorme, en mission locale, ce que je vais vous présenter juste après. Et sauf qu'on sait on s'est rendu compte que c'est les professionnels qui veulent pas en parler. C'est vous en fait, c'est moi. On a des blocages sociétaux sur ces questions-là. Non, mais je nous inclus dedans parce qu'on a. Je vous donne un autre exemple parce que moi, j'aime bien travailler sur ces questions-là. Qui a déjà entendu parler. On est sur des questions de genre encore, mais dans des proportions différentes. De la dépression du postpartum paternel. Qui a déjà entendu parler de la dépression du postpartum paternel ? Paternel, pas maternel, paternel. Ouais, vous savez, ça touche combien de pères ? 1 sur 10. Ouais, 1 sur 10 est touché par la dépression du postpartum paternel. Vous savez c'est quoi les symptômes ? Désinvestissement familial, agressivité, refus de la position éducative. Alors, je ne dis pas que tous les pères en protection de l'enfance ont des dépressions du postpartum paternel. Il y a de la schizophrénie, il y a de la psychose paranoïaque, il y a de la perversion. Mais ça serait bien d'interroger ça chez les pères qu'on accompagne, parce qu'aujourd'hui, les pères sont cantonnés soit à des pères violents, abandonniques, ou auteurs de violences sexuelles. Ça, c'est une étude que j'ai menée en 2016. À l'époque, je travaillais sur la place des pères en protection de l'enfance. Et en fait, un père, et juridiquement parlant, c'est encore le cas, est toujours mieux que la mère, quel que soit. Et moi, je milite, notamment, je me mets systématiquement chez mes enfants, je suis parent 1, partout, parent 1. Appelez-moi ! Ils appellent toujours ma femme, ils n'ont rien à faire. Mais c'est aussi la façon dont on considère les pères dans les fonctions éducatives. C'est quelque chose d'important. Donc, il y a des clivages extrêmement importants sur des fonctions de genre dans notre société qui vont induire différentes problématiques. Il y avait une question là-bas et après, je reprends mon PowerPoint.
Oui, j'allais dire, on va reprendre le fil parce qu'on aurait 15-20 minutes max pour vous finissiez votre exposé. Dernière question.
Oui, très rapidement. Donc, en fait, ce patrimoine de domination masculin qui est aussi évoqué par Françoise Héritière, qui parle de masculin féminin, et qui finalement devient notre héritage et se traduit par la culture du viol. Comment vous l'avez travaillé justement et quelle réponse sociétale on pourra apporter, parce qu'on voit bien c'est finalement ça qui pose un problème et qu'on voit même dans les médias, les acteurs ou les connaissances, il y a toujours quelque chose qui empêche. Donc voilà, peut-être c'est la base qui doit être travaillée en amont. Merci.
Alors, vous convoquez Françoise Héritière, j'en suis très heureux puisque pour moi c'est vraiment la personne la plus... Françoise Héritière, je me rappelle pas la citation par cœur, mais pour moi c'est vraiment ce qui a été la lecture qui a déclenché mon engagement sur les questions de genre. Elle écrit dans Masculin et féminin, tome 2, le destin de l'humanité féminin est lié à la faille narcissique des hommes. Celle-ci, c'est l'incapacité de se reproduire à l'identique. Pour ce faire, ils sont obligés de passer par le corps de la femme. Et c'est de cette incapacité qu'issue le destin de l'humanité féminin. Et ça, on le retrouve dans tous les textes juridico-religieux, excepté dans l'islam d'ailleurs, parce que pour la filiation patriarcale, le père biologique n'existe pas. On n'est absolument pas en mesure de garantir qui est le père biologique. On ne peut pas. La mère biologique, oui. Le père biologique, on ne peut pas. Hein ? Bah, c'est exactement ce qu'on a généré comme société. On a créé une société patriarcale pour enfermer la femme, pour pouvoir contrôler. Vous prenez les travaux de Michel Serres, de Pascal Pic. Michel Serres qui était philosophe au Collège de France et à l'Académie française. Pascal Pic qui est paléoanthropologue au Collège de France, qui a une chaire de paléanthropologie. Il vous explique, Pascal Pic, que dans toute l'histoire du règne animal, nous sommes la seule société à avoir interdit aux femmes de chasser pour générer une aliénation sociale. Si les femmes ne peuvent pas chasser, elles sont forcément soumises aux hommes. Si les femmes ne peuvent pas aller à la guerre, elles sont forcément soumises aux hommes. Et donc, on a mis en place des interdits fondamentaux pour pouvoir contrôler le corps des femmes. Et quel est l'objectif du contrôle du corps des femmes ? C'est de contrôler la filiation biologique. Puisque je ne peux pas contrôler ma filiation biologique, je contrôle l'objet qui la porte. Le mariage en est un très bon exemple. Vu que quand on se marie, on doit être vierge et fidèle, ben on garantit au maximum la filiation. Alors, je sais, j'ai eu des débats terribles avec des personnes religieuses pour dire que le mariage n'était pas que ça, c'était une inscription dans la spiritualité, ça représentait aussi plein de choses. Oui, mais d'un point de vue anthropologique, d'un point de vue des enjeux de domination, c'est le seul instrument de contrôle qu'on a sur la femme, la virginité. Si je veux être sûr que son enfant, c'est le mien, il n'y a que la virginité qui permet de contrôler ça. Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, on continue. Donc, en gros, ça ne va pas chez les jeunes au niveau de la santé mentale en situation d'exploitation sexuelle. Le retour à la réalité est un peu brutal. Et là, je paraphraserai Guillaume Bronsart, qui est professeur de pédopsychiatrie à Brest, qui travaille sur la santé mentale des enfants de l'ASE. Et Guillaume Bronsart souligne que les enfants de l'ASE ont moins d'idéations suicidaires que les enfants en population générale. Par contre, quand ils les ont, ils passent plus à l'acte. Voilà. Donc, on a un besoin de regarder, peut-être de façon un peu plus spécifique, la question des enfants de l'ASE. Et ben comme on disait, les mineurs en situation d'exploitation sexuelle, c'est une catastrophe. Hein. C'est 4 fois plus. Elles ont 4 fois plus d'idées suicidaires. Et ce que j'ai fait aussi, parce que ça on le sait, on a les données les données existent. On sait que en santé mentale, la relation entre la relation entre antécédents de violence sexuelle et idées suicidaires est quelque chose d'avéré. Par contre, ce que j'ai voulu voir, c'est quand on passait par de l'exploitation sexuelle, qu'est-ce que ça donnait? Eh ben, ça augmente de 23% le risque d'idées suicidaires. C'est-à-dire que déjà, quand vous avez été victime de violences sexuelles, vous avez 2,5 fois plus de risque d'avoir des idées suicidaires, et ces 2,5 sont augmentés de 23% quand vous êtes en situation d'exploitation sexuelle. Ce sont des mineurs qui sont surreprésentés dans le risque suicidaire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut mentionner, et c'est très important. Bon, ça, c'est quelques petites conclusions hein, de cette première partie. La deuxième partie, ah, je suis désolé, je suis une vraie pipelette et je fais beaucoup de digressions.
Il me reste combien de temps ? Essayer de ne pas faire de digressions pour que Madame David ait un temps correct. Logiquement, on a fini, mais on va vous laisser jusque et demi, mais il ne faut pas dépasser.
Alors, 5 minutes.
Parce que sinon, voilà. Ou alors, collégialement, on se prive de la pause. Voilà. Et auquel cas, chacun...
Quelle heure,
voilà.
Combien de temps vous me donnez ?
Jusque et demi. Alors, attendez. 15 minutes max.
Alors, j'en prends 10. Mettez-moi un réveil, prévenez-moi si vous voulez.
Ouais, 10, okay. Je vous fais des grands
Donc, signes. Ce que je vais vous présenter, c'est 6 mois de récolte de données entre janvier et juin dernier. Donc, mes données sont fraîches, j'ai jamais publié dessus. J'ai juste fini de nettoyer ma base de données en septembre et j'ai commencé à analyser. Donc, j'ai cherché à comment extraire les données pour avoir une présentation la plus fiable sur les 3011 jeunes adultes en mission locale qui ont répondu à mon questionnaire. Donc voilà, c'est des données qui m'ont un peu bouleversé et hop, il manque encore une donnée. Voilà, vous l'avez maintenant. Donc j'ai 3011 jeunes adultes en mission locale à travers la France qui ont répondu à un questionnaire. Sur ces 3011 mineurs, on avait 9,3% qui ont déclaré être victimes d'exploitation sexuelle durant l'enfance. C'est de l'auto-administratif, c'est eux qui ont répondu au questionnaire. La question était la suivante. Pendant votre enfance, avez-vous eu des rapports sexuels contre de l'argent, un cadeau ou la promesse de quelque chose? C'est la définition de la loi. C'est la définition de la loi et je la trouve très bien parce qu'elle n'induit pas des représentations. On ne parle pas de prostitution, on ne parle pas de michetonnage, qui sont des termes qui peuvent être un peu clivants et empêchants de penser, alors que la définition de la loi est très claire. Sur les 9,3%, 40% étaient des garçons. C'est 1 sur 2. Sur les 3011 jeunes. Non, il y avait un peu moins de garçons. Et en fait, d'ailleurs, c'est la seule faute méthodologique que j'ai, c'est qu'il faudrait que je corrige le poids des garçons, donc en fait, ça ramènerait à plutôt à 45 ou 46%. Voilà, en corrigeant la valeur des poids. 28% venaient de la protection de l'enfance, 23% de l'ASE et 15% de la PJJ. Je n'ai pas calculé ceux qui avaient des doubles mesures, c'est pour ça qu'il y a un écart entre les 25, les 23 et les 15, parce qu'il y a beaucoup de doubles mesures. Voilà. Donc ça veut dire, si on prend juste ces données-là, on sait qu'il y a à peu près 1 million de jeunes en mission locale aujourd'hui. Bah ça veut dire qu'il y en a 90 000 qui ont été en situation d'exploitation sexuelle. Voilà. Sauf que c'est pas vraiment à la même période. Là ils sont tous jeunes adultes. On peut pas vraiment faire ce calcul. Par contre on sait que 30% viennent de l'ASE. Bah, si je prends mes 15 000 de tout à l'heure et que je multiplie par ça pour avoir les éléments d'à côté, j'arrive à 50 000. Voilà. Non, en population générale. Sauf que c'est pas tout à fait la population générale, il faudrait inclure aussi les étudiants. Voilà, pour avoir des données. C'est aussi important. Ouais, mais là, je les ai pas inclus, 16-18. J'ai pas inclus parce qu'il faut l'autorisation parentale pour pouvoir faire l'étude et je l'ai pas fait. Voilà. Aujourd'hui, ces jeunes, 43% cohabitent avec leurs parents versus 59, donc c'est des jeunes qui sont plus isolés. 36 sont dans des hébergements d'urgence ou sans logement versus 15, donc c'est des jeunes qui sont vraiment en situation de grande précarité. 35% mangent moins de 2 repas par jour, donc dans une situation de précarité alimentaire. On a aussi mis une échelle qu'on appelle la FIES, la Food Insecurity Experience Scale, qui permet de mesurer le risque de détresse alimentaire en fonction de l'EMS. On a pratiquement 46% des jeunes en mission locale qui sont en détresse alimentaire.
Et aussi une fragilité administrative, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que 34% sont des résidents étrangers ou sans papier versus 17% dans les autres. Donc on a une surreprésentation quand même de personnes de population étrangère, mais quand même, il faut quand même le souligner, on a 68% de Français en situation d'exploitation sexuelle. Voilà. C'est quand même voilà, il faut, c'est important de travailler avec les problématiques, les données, pour pouvoir accueillir et accompagner correctement les personnes. Et puis bah en fait, ça confirme ce que j'ai dit tout à l'heure, 66% ont un niveau inférieur au bac chez les personnes en situation d'exploitation sexuelle, donc elles vont moins loin dans les études. En gros, l'exploitation sexuelle s'inscrit dans un contexte de vulnérabilité structurelle et résidentielle qui amplifie l'exposition au risque, même à l'âge adulte. Là, on a fait passer donc des questions, le CTQ, le Child Traumatism Questionnaire, pour mesurer ces différentes maltraitances en auto-déclaré. C'est eux qui cochent des cases pour exprimer. Et ce dont on se rend compte, que ce soit en pourcentage absolu ou en intensité, ce sont des mineurs qui sont plus exposés, mais aussi plus souvent, et dans des formes plus graves. Voilà. Donc, et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que même le risque d'exploitation extrême était corrélé au risque de maltraitance extrême. Il y a quelque chose comme ça qui lie l'un va avec l'autre. Donc, les situations complexes génèrent des situations d'exploitation sexuelle plus complexes. Les situations moins complexes génèrent des situations d'exploitation sexuelle moins complexes. Sur la question de la santé mentale, et ça c'est une première au niveau de la recherche, et j'en suis assez fier parce que ça n'a jamais été étudié par ailleurs, donc on a 83% de jeunes en situation d'exploitation sexuelle qui souffrent de dépression majeure, voilà, par rapport à la PHQ-9, donc c'est une échelle de dépression. Les troubles anxieux, 70%, 68% de pensées suicidaires, donc on est encore dans des considérations extrêmement importantes. Alors, l'étude tout à l'heure était en 2020, juste avant la Covid, et là on est après. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça qui est vraiment, c'est vraiment la première fois que c'est étudié, c'est qu'on a 48% des jeunes qui présentent un stress post-traumatique et 38% des jeunes qui présentent un stress post-traumatique complexe. Ça veut dire que si vous associez les deux, vous avez 85% des jeunes qui ont un trauma complexe ou simple. Voilà. Donc ça montre toute la désorganisation psychique que ça peut générer. Et troubles du sommeil, 74%, idéation suicidaire, je l'ai déjà verbalisé. Pareil, encore une fois, que ce soit en nombre et en intensité, on a des symptômes extrêmement importants. Alors, là, je vous montre un petit schéma un peu barbare. En 2020, j'ai travaillé sur la santé mentale des jeunes en mission locale, et en fait, je me suis amusé à refaire l'étude, parce qu'en fait, ça s'inscrit dans une logique globale, ce que je vous montre. J'ai juste la variable exploitation sexuelle qui permet de mesurer et de vous le présenter. Et en 2020, on avait ce réseau de symptômes. C'est-à-dire que ça, c'est l'organisation, les bulles bleues, c'est l'organisation de la dépression, les bulles roses, c'est l'organisation de l'anxiété. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la bulle PHQ-9 qui est en haut à gauche, parce que c'est celle qui permet d'identifier les idéations suicidaires. Et en 2020, on s'est rendu compte que elle était très périphérique, très peu interconnectée avec l'anxiété, et donc c'était quelque chose qui était présent, mais qui n'était pas dominant dans la symptomatologie. Et ça, je parle de tous les jeunes en mission locale. Par contre, en 2025... les idées suicidaires se sont extrêmement centralisées dans la symptomatologie et elles se sont interconnectées avec l'anxiété. Elles ne sont plus le résultat d'une dépression, elles sont aussi le résultat d'une position anxio-dépressive. Donc si vous évaluez la suicidabilité au risque de la dépression, vous passez à côté de 50% des idées suicidaires qui sont inscrites aussi dans des logiques anxio-dépressives. Et je me suis dit, si on applique le même raisonnement méthodologique aux jeunes en situation d'exploitation sexuelle, qu'est-ce que ça donne ? Sur ma cohorte de 2025, donc là, vous avez ceux qui n'ont pas d'antécédent d'exploitation sexuelle, qui ont le PHQ-9, là, légèrement intégré en haut à droite, et là, vous avez ceux qui ont des antécédents d'exploitation sexuelle, où on voit que le PHQ-9 est hyper central. Donc, ça confirme tout ce qu'on disait, sauf que là, ça le met de façon extrêmement déterminante. Les idées suicidaires sont centrales chez les jeunes exploités sexuellement. Et alors, vous allez me dire, mais pourquoi nous, quand on les rencontre, elles nous disent que tout va bien ? Eh bien, on a poursuivi ces recherches
avec l'utilisation d'autres questionnaires, notamment le DSQ40, le Defense Skill Questionnaire, qui permet de mesurer les mécanismes de défense. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que ces jeunes avaient, et je suis désolé, il y a des bouts qui disparaissent, avaient deux formes de mécanismes de défense qui étaient très prononcées. C'est un mécanisme de défense d'abord qui est très mature, avec beaucoup donc d'anticipation, de sublimation, de suppression formelle, de couche superficielle adaptative, mais que quand on regardait en fait le même questionnaire, les mêmes choses, de façon très contradictoire et très étonnante, on avait beaucoup l'acting out, le clivage, les régressions, les fantaisies autistiques, qui n'a rien à voir avec l'autisme, c'est juste pour dire qu'il y a un repli sur soi, sur un monde fantaisiste, pour essayer de survivre, donc des mécanismes très primaires en fait dans le fonctionnement, qui étaient aussi, présents dans les résultats qu'on avait. Et donc, et ça c'était vraiment propre aux jeunes en situation d'exploitation sexuelle. Et donc, là où ça nous invite à réfléchir, c'est une hypothèse de compréhension de la situation qui converge très bien avec ce que vous connaissez sous le nom de faux self chez Winnicott. C'est que Winnicott, il décrit l'existence d'un faux self pour pouvoir protéger d'un vrai self fragilisé, traumatisé, qui converge avec cette symptomatologie extrêmement dépressive, traumatique, avec des pensées de pulsion de mort, des pensées suicidaires. Et donc Winnicott décrit le faux self comme une organisation défensive destinée à protéger le vrai self de l'intrusion environnementale. Cette structure psychique émerge lorsque l'environnement primaire ne parvient pas à s'adapter suffisamment aux besoins authentiques de l'enfant. Et donc, on va avoir un double mouvement, et encore une fois, il me manque des choses. Voilà. Une suradaptation sociale, une menace d'intrusion et un retrait autistique pour essayer de vivre un peu intérieurement tous les froids qu'on a à l'extérieur. Le modèle structural s'inscrit dans cette logique-là, vrai self, faux self, monde relationnel et fantaisie autistique qui prend vraiment beaucoup de place dans cette structuration et qui permet, et ça je trouve ça très important, de parler plutôt d'économie de survie psychique plutôt que d'économie de vie psychique. Voilà. Cette organisation défensive témoigne d'une économie de survie psychique plutôt que d'une vie psychique véritablement habitée. Le sujet fonctionne dans un mode de préservation permanent, mobilisant ses ressources pour maintenir la cohésion du self plutôt que pour investir créativement le monde relationnel. Et en gros, et si je me trompe pas, il me reste deux slides, oui, j'étais vite. Reconnaissance du faux self. Ah oui, voilà, excusez-moi. Voilà. En fait, ce qui est très important, donc, c'est des préconisations. Moi, je n'y connais rien à la prise en charge. Je suis psychothérapeute à côté, mais je n'ai pas de spécialité sur les mineurs. Aujourd'hui, c'est le projet des 5 prochaines années, c'est de travailler là-dessus. Mon projet de recherche sur les 5 prochaines années, c'est de comprendre comment on peut les aider à sortir de l'exploitation. Mais en tout cas, ce qu'on préconise par rapport à ces résultats, c'est donc la reconnaissance du faux self. Donc le travail thérapeutique nécessite d'abord l'identification de cette organisation défensive sans la menacer prématurément. Ça sert à rien de leur dire « mais arrête de mentir ». En fait, la dimension d'une intrusion psychique est extrêmement contre-productive et va générer une amplification des mécanismes de défense. La création d'un espace sécure, vous avez certainement entendu parler du modèle ARC avec Delphine Collin-Vézina qui fait de plus en plus de travaux sur l'attachement, la régulation et la compétence. L'attachement, c'est créer un espace sécure. Winnicott disait dans « Jeu et thérapeutique », contrairement à Mélanie Klein, vous savez, Mélanie Klein a dit que le jeu a comme équivalent l'association libre chez l'adulte. Winnicott, lui, nous dit « le jeu est une thérapie en soi. Un enfant qui joue est un enfant qui se sent en sécurité. Cet espace sécure est déjà thérapeutique. » Parce que pour pouvoir créer un espace sécure, pour que l'enfant le ressente, c'est pas moi, je crée un espace sécure. Non, c'est lui qui le ressent comme tel. C'est pas la même chose. Qui lui permettra de jouer et donc d'accéder à son self et donc de se décharger de ce faux self défensif. Voilà. Et donc de respecter le rythme des défenses. Le retrait défensif ne doit pas être interprété comme une simple résistance. Elle constitue une protection nécessaire qui convient de respecter jusqu'à ce que d'autres modalités relationnelles deviennent possibles. Et ça, c'est très important parce que vous savez que chez ces mineurs, il y a beaucoup de va-et-vient dans ces structurations psychiques qui peuvent rendre complexe la relation éducative et thérapeutique. Je parle beaucoup des deux ensemble, éducatif et thérapeutique. Vous avez Albert Sicone qui a écrit un très bon bouquin sur la porosité de ces espaces. Quand vous faites de l'éducatif, vous faites aussi du thérapeutique. Et pour terminer, donc, voilà, comprendre pour accompagner. Je laisse ma place à la collègue.
Merci. Ouais, c'est bon. On frustre personne. C'est bon. Alors, est-ce qu'on fait... Ah, y a une... Alors, on fait une question et pas de pause. Ça vous irait ?
J'ai juste...
Alors, une question hyper courte.
Hyper
Vincent,
courte.
Hyper courte.
Hyper courte, oui, tu me connais. C'est juste la sphère émotionnelle. J'ai rien vu sur vos travaux. Je pensais à la lexithymique, de choses comme ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des éléments ?
Non, on a en fait l'outil qu'on a créé durait déjà une demi-heure à être rempli. Et donc, on a retiré la tasse 20 pour mesurer la lexithymique. Mais ça fait partie des choses qu'on peut faire plus tard. Parce qu'effectivement, pour nous, ça a quelque chose d'important, même si ça n'a jamais été mesuré, c'est comment on peut essayer de mesurer aujourd'hui. Non, mais je suis entièrement d'accord, je partage tellement votre opinion.